Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver encore ce soir, en cette semaine dite sainte, mais où nous voulons nous préparer pour, et non seulement nous souvenir de la mort de Christ, mais aussi de sa résurrection. Et donc, le passage qui m'a été assigné pour ce soir se trouve dans l'évangile de Marc, et au chapitre 14, et je vais lire les 11 premiers versets. Donc, Marc 14 et les 11 premiers versets. Nous dit la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient, que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. On pourrait relever plusieurs détails ici dans ce passage. Déjà, ça se passe chez Simon le lépreux. Certainement qu'il n'était pas lépreux, mais peut-être avait-il été lépreux et qu'il était guéri. Et peut-être est-ce que c'était Jésus qui l'avait guéri. Dans tous les cas, ils sont à table là et justement, bon, à partir de ce passage-là, on ne sait pas exactement qui est cette femme, mais lorsque on lit dans Matthieu 26, eh bien, ou Jean 12, eh bien, on devine que ça doit être Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Et donc, ce que je veux juste relever 2 points ici dans ce passage. Le premier, eh bien, concerne cet amour extravagant. Les disciples l'ont remarqué, les disciples et ceux qui étaient là, quand ils ont senti ce parfum, et certainement c'était un parfum de grand prix, donc. C'est sûr que pendant que ça se répandait, c'était agréable et toute la maison était remplie de cette odeur. Mais tout de suite, ces personnes ont pensé à ce que ça avait coûté. Hein, et même, ils ont estimé la valeur à 1 année de salaire pour un ouvrier agricole. Et pour eux, ils se disent, mais on pourrait le donner aux pauvres. Ça fait toujours bien de dire, on aurait pu le donner aux pauvres. On le lit dans l'évangile de Jean qu'il y a, en fait, il y a personne qui pensait aux pauvres quand ils l'ont dit. Mais voilà, c'est comme souvent, hein, on parle des besoins et puis finalement, c'est pas là. Et Jésus savait, mais il n'a pas répondu à leur pensée, mais plutôt il a. Et ce que je trouve déjà, c'est une première chose, c'est cet amour. Elle voulait exprimer quelque chose. Et ce qu'elle ressentait était tellement fort que pour elle, il n'y avait que ce nard qui pouvait l'exprimer. Elle avait un tel amour. Vous imaginez un jeune amoureux qui rencontre la fille de son cœur et vous savez que tout de suite, il a envie de dépenser, il est généreux et il est prêt à acheter de l'or, il est prêt à la transporter de partout. C'est un amour extravagant. Et là, Jésus ressent cet amour extravagant chez cette femme. Et elle est prête à donner ce qui lui coûte cher. Parfois, beaucoup sont prêts à exprimer leur amour au Seigneur, mais sans que cela leur coûte. Et le Seigneur remarque quand ça coûte. Hein, comme la veuve qui a mis les deux petites pièces dans le tronc du temple, eh bien, il a vu ce que ça lui avait coûté. Et le Seigneur sait ce que ça nous coûte. Ce n'est pas une question de ce que les autres autour de nous pensent, mais ce que cela représente pour nous. Et Jésus en dira, elle a fait une bonne action. Il approuve ce qu'elle a fait. Même si personne d'autre l'a approuvé, lui l'a approuvé. Pourquoi? Eh bien, je fais référence à cette conversation qu'il avait près d'un puits dans Jean chapitre 4, où il a dit que, en fait, Dieu, eh bien, cherche des vrais adorateurs. Des gens qui sont prêts à adorer en esprit, en vérité. Il n'a pas dit hein, ceux qui sont prêts à bien parler ou ceux qui sont prêts à faire des bons gestes, mais des vrais adorateurs, quand ça vient du cœur. Et là, Jésus a pu voir que ce geste de cette femme venait vraiment du cœur. Là, lui a pris ça comme d'une vraie adoration. Elle ressentait quelque chose pour lui et elle l'a exprimé comme elle a pu. Et elle a déversé ce parfum sur son corps. Elle avait un message à lui donner. Je m'arrête sur cette parole, elle a fait ce qu'elle a pu. Regardez dans le miroir et voyez si cette personne-là, eh bien si Jésus dirait d'elle, elle a fait ce qu'elle a pu. Nous mettons en avant ce que nous avons fait, mais lui regarde qu'est-ce qu'on a pu faire. Qu'on n'a pas fait. Est-ce qu'on a fait tout ce qu'on a pu? Hein, et c'est un bon moment de s'arrêter et de voir si on a fait, si Jésus dirait de nous qu'on a fait ce qu'on a pu. Il a pu le dire d'elle. Ensuite, bien sûr, devant la critique, eh bien, Jésus, c'est lui qui prend la parole. C'est pas elle qui se défend, mais regardez comment Jésus devient en fait le paraclète de cette femme. Il va être celui qui se tient près d'elle, comme dans Jean 8, près de la femme qui a été accusée d'adultère. Il va se tenir près d'elle, il va devenir son avocat. Comme il nous dit dans 1 Jean chapitre 2 et versets 1 et 2, il dit, nous avons un avocat auprès du Père. Et Jésus devient là, sur terre, il devient l'avocat de cette femme et il la défend. Elle n'a pas besoin de parler, il la défend devant ses accusateurs. Et ce qu'il a fait sur terre, il le fait dans le ciel. Ce qu'il a fait pour elle sur terre, il le fera pour nous et il le fera dans le ciel. Hein? Actuellement, Jésus se trouve à la droite du Père et il intercède en notre faveur. Il est notre avocat. Et tout de suite, Jésus prend ce geste et il l'applique à sa sépulture. Peut-être qu'elle y pensait vraiment. C'est elle qui s'était assise au pied de Jésus quand Marthe s'était activée à faire beaucoup de choses. Et peut-être qu'elle a compris. Et elle, la seule qui a compris que Jésus allait mourir. C'est la seule peut-être qui a accepté cela. Et Jésus, a tout de suite, il a appliqué cela, surtout à sa sépulture, parce qu'il savait que les disciples ne rempliraient pas leur devoir. Eux qui avaient marché avec lui pendant 3 ans et demi, au moment où il est crucifié, où son corps est là, eh ben eux, où sont-ils? Eh ben ils sont nulle part. Et si ce n'était pas pour des gens comme Joseph d'Arimathée ou Nicodème, ou si ce n'était pas pour les femmes, eh bien, il n'aurait pas eu une sépulture qui soit digne de lui. Hein? Donc Jésus prend le geste de cette femme et l'applique à ce moment où les disciples manqueraient à leur devoir. Cette expression extravagante, cet amour extravagant, généreux, que cette femme présente à Jésus, eh bien Jésus l'accepte, le reçoit et lui attribue une gloire. Il a dit, dans le monde entier, on entendra parler d'elle. Il récompense cette femme. Ça m'a fait penser à une histoire d'un certain Écossais, s'appelait John, qui a choisi de se rendre en Amérique pour se faire une situation et se faire une nouvelle vie, alors que lui, son frère, se consacrait pour l'œuvre du Seigneur. Et son frère est parti en Afrique, et dans le fin fond de l'Afrique. C'est son frère qui a découvert les chutes de Victoria. C'est son frère qui a été le premier à dénoncer l'esclavagisme qui se faisait au cœur de ce continent. C'est au 19e siècle, tout au début du 19e siècle, il était là. Et lui, il était parti pour porter l'évangile de Jésus-Christ à ce monde que le monde n'appréciait pas, que ce monde ne reconnaissait pas. Eh bien, lui, motivé par son amour pour Jésus-Christ, il va dans les fins fonds de ce continent. Et vous allez me demander, mais qui est-ce? Eh bien, c'était David Livingstone. David Livingstone, qui est connu par le monde séculier comme étant un grand explorateur, qui est connu dans le monde chrétien comme étant un grand missionnaire. Et vous savez, maintenant, lorsque vous cherchez dans Google et vous cherchez John Livingstone, il vous dit « frère de David Livingstone ». Il a été chercher la gloire, mais nous parlons encore de ce frère David Livingstone, qui est un missionnaire qui est très apprécié des Africains. Et je suis allé au Congo et j'ai trouvé sa statue et il est là, il est aimé, il est apprécié. Vous savez, il a voulu donner, il a donné tout ce qu'il avait pour, et il est mort là-bas et il a presque disparu là-bas avec la maladie et le paludisme. Mais il a donné, il avait un amour extravagant pour le Seigneur. Il a donné ce qu'il a pu, il a fait ce qu'il a pu, il a donné ce qu'il avait. Eh bien, il est encore connu. Tandis que John Livingstone, personne ne sait qui c'est. Et on ne pense pas grand-chose pour lui. Et donc, je parle de ce que Jésus... En fait, Jésus l'a fait pour cette femme, Marie. Hein, mais il l'a fait pour David Livingstone. Et vous savez, il reconnaît l'amour extravagant même aujourd'hui. Je reviens à cette parole de Jésus. Il dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Pourquoi est-ce que vous la critiquez? Parce qu'elle exprime son amour. Et son amour est débordant. Son amour est généreux. Elle est prête à sacrifier pour celui qui va être son sauveur et son Seigneur. Et est-ce que vous êtes souvent critiqué pour ce que vous donnez au Seigneur? Cette priorité, dites-moi, ma vie, je ne la vis plus pour moi-même, mais je la vis pour Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et peu importe si on est critiqué, nous avons un avocat, Jésus-Christ. Et comme il a défendu, c'est lui qui a défendu, qui a parlé pour Marie devant Marthe, et c'est lui qui répond devant, qui parle pour Marie devant ses accusateurs, sa critique. Et donc, en ce temps de célébration de la mort de Christ, quand Christ a tout donné, c'est pas seulement qu'il a été généreux, mais il a donné sa vie. Il a tout donné pour nous sauver, pour devenir notre sauveur. C'est un peu comme le comte Zinzendorf qui s'est trouvé devant ce tableau de la croix de Christ et sous laquelle il y avait marqué « Voilà ce que j'ai fait pour toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Et c'est la question que nous voulons poser encore. Oui, je sais ce que Marie a fait, mais est-ce que Steve a fait tout ce qu'il a pu? Voilà une question pour chacun de nous ce soir. Et que le Seigneur nous aide et nous encourage et que nous puissions faire mieux à l'avenir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et à bientôt.